Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Habemus Papam.
Jean-Christophe Drouet.
Oui, Habemus Papam. Le pape qui est actuellement en Corse, à Ajaccio, dans sa papa mobile mondialement célèbre. De retour dans les grandes gueules du sport, il est 10h06. Bonjour à tous, merci de nous suivre toujours aussi nombreux. On vous accompagne toute la matinée, comme tous les samedis, comme tous les dimanches, jusqu'à midi. Avec Christophe Cessieux, Fred Weiss et David Douillet et Jérôme Pineau ce matin. Dans quelques instants, on va parler de Tadej Pogacar, le champion slovène. Doit-il tenter le pari fou? C'est quoi le pari fou? Les trois grands tours la même année, évidemment. Il a dû répondre à cette question cette semaine. C'est la meilleure saison de ma carrière. Je parle pas de moi, évidemment. C'est Luis Enrique qui a encore fait une sortie remarquée hier en conférence de presse avant le match ce soir face à Lyon. Est-il provoque ou sincère? C'est la punchline à 10h30, oui.
Pourquoi évidemment? Évidemment, c'est pas ta meilleure saison, c'est ça? T'es en train de dire que nous, on contribue pas à ce que ça soit ta meilleure saison. Merci beaucoup.
J'ai pas du tout dit ça, mais vous en ferez l'interprétation que vous voudrez, les copains.
Comme ça.
Et puis ce soir sur RMC, c'est l'événement avec l'interview exclusive de Neymar. On parlera évidemment de la superstar brésilienne. Il veut faire la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'une superstar peut devenir un boulet pour sa sélection? Ce sera donc notre débat à 11h. Léna Marja qui est avec nous en direct de Val d'Isère pour le ski. Salut Léna.
Salut JC, salut à tous.
Salut.
Il n'y aura pas Clément Noël pour ce slalom, la première manche.
Effectivement, ouais, pas de Clément Noël à Val d'Isère. C'était une décision qu'on redoutait, qui est tombée donc vers 8h ce matin. Clément Noël est allé se tester lors de la reconnaissance, mais finalement la douleur à sa cheville droite était trop importante. C'est une blessure qui est survenue hier lors de la première manche du géant. Il est tombé, il s'est cassé deux dents qui ont été réparées, et puis donc cette petite entorse à la cheville droite. Donc par précaution, il ne prend pas le départ ce matin. Et donc les chances françaises maintenant se tournent vers 5 autres skieurs français tricolores, mais surtout un, c'est Steven Amier avec son dossard 10 qui va prendre le départ dans quelques instants, et lui a envie de venir le meilleur skieur du monde. Alors c'est peut-être aujourd'hui que ça va commencer, parce qu'il peut aller chercher le premier podium de sa carrière devant son public et surtout devant son fan club. 120 supporters de Steven Amier sont en bas de la face de Belvoir. Donc voilà, les regards vont être tournés vers Steven dans quelques instants.
Parfait, on sera évidemment avec son papa, hein, Sébastien Amier, dit Bastoun, dans quelques instants pour cette première manche du slalom à Val d'Isère du fiston Amier. On va débuter ce débat, Pogacar, et puis évidemment on prendra la direction de Val d'Isère dans quelques instants. La citation d'Eugène Delacroix pour débuter ce débat, qui a dit un jour, il faut toujours parier sur le génie.
RMC, le bras de fer GG.
Il démarre, Tadej Pogacar, c'est un killer, c'est un tueur. Tadej Pogacar, le maillot jaune, n'est pas un seigneur, c'est un killer. Il va aller s'imposer la 5e victoire d'étape sans problème pour Tadej Pogacar.
Il l'a fait, Tadej Pogacar. Hier, il n'avait pas apprécié d'arriver à 3. Il avait perdu ce sprint. Il prend sa revanche tout seul, comme un grand. Tadej Pogacar qui revêtit le maillot rose, ouais, du leader également.
Tadej Pogacar qui n'a plus que quelques coups de pédale à donner. Il donne de ligne de la tête, il passe de la gauche de la route vers la droite de la route. Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée, et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré champion du monde 2024. Tadej Pogacar, 25e victoire de la saison, le épilogue d'une année absolument exceptionnelle. Vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour de France, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, champion du monde, et désormais vainqueur du Tour de Lombardie, avec le bras levé et les vélos surtout dans les bras.
Eh oui, simplement le meilleur, parce que je parle anglais comme vous le savez. Cette semaine, Tadej Pogacar a dévoilé son programme pour 2025. Lui qui vient de sortir d'une saison exceptionnelle, vous l'avez entendu. Va-t-il tenter un jour le triplé inédit Giro, Tour de France, Vuelta? La question est sur toutes les lèvres. Et il y a une semaine, à l'occasion de la remise du vélo d'or, voici ce que disait Pogacar.
Non, je n'y pense pas vraiment. Faire trois grands tours dans la même année, c'est une chose, mais y aller pour la victoire, c'est différent. Et puis on a 30 coureurs dans l'équipe, ils ont aussi leur chance, donc je peux me contenter d'en faire deux.
Mais cette semaine, à l'occasion de la conférence de presse de rentrée de son équipe, Pogacar a utilisé les mêmes arguments à une différence près. Il a rajouté quand même quelque chose. Pogacar.
On a 30 coureurs dans l'équipe, donc je ne vais pas faire toutes les courses. J'aimerais essayer, mais ce n'est pas une priorité.
Ah, il a rajouté cette petite phrase. Je vais essayer. La porte est entrouverte. Les trois grands tours. Pogacar doit-il tenter le pari fou dans le coin gauche? La team oui, représentée par David Douillet et Fred Weiss dans le coin droit. La team non, les spécialistes vélo. Christophe Cessieux et Jérôme Pinault. Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport spécialiste vélo. Vous l'avez entendu dans les commentaires. Évidemment, c'est Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
Salut
Arnaud. Petit élément de contexte hein, sur le petit ajout, tu disais, de la, qui est cette semaine en conférence de presse. Il a quand même fallu, et pour, c'était moi qui lui ai posé la question, il a quand même fallu poser trois fois la question pour qu'il sorte cette phrase-là. Donc voilà, c'est quand même.
Bravo, en le piquant, il non, arrive
c'est pas,
à dire
c'est pas ce que
essayer.
Je veux dire, c'est pas pour dire c'est moi, bien mais sûr. C'est juste pour dire que c'est un sujet un peu touchy quand même.
Ok, on en parle dans quelques instants parce qu'on nous appelle à Val d'Isère pour la descente de notre Français ami. La meilleure chance aujourd'hui à Val d'Isère en l'absence de Clément Noël. C'est avec Léna Marjac et évidemment le papa Bastoun, Sébastien Amier.
Oui, Steven Amier, on le voit là dans le portillon départ. Toujours comme ça, très expressif, Bastoun, juste avant de prendre le départ.
Ouais, il paraît qu'il a un gros rituel dans la cabane de départ. En tout cas, c'est l'énergie qui met et qui dynamise aussi pour après la manche.
Allez, c'est parti pour Steven Amier. Il veut devenir le meilleur skieur du monde. C'est peut-être son jour. Il n'a jamais réalisé un podium en Coupe du Monde en slalom et il a envie de briller aujourd'hui devant son public, devant son fan club. C'est la première fois également qu'il skie devant son fan club et au premier intermédiaire, 14 centièmes de retard sur Henrik Kristoffersen qui est en tête.
Allez, c'est bien parti. C'est vrai qu'il a subi un petit peu en haut, mais il était au contact au niveau du temps chronométrique. Ça revient, ça fait le match maintenant avec notre ami Kristoffersen. C'est bien, c'est solide, c'est empilé comme il le fait maintenant depuis la saison dernière. Maintenant, il faut finir le boulot et ça allume l'hiver, comme il dit souvent.
Un petit centième d'avance pour Steven Amier qui arrive vers la fin de cette phase de Bellewaerde. Il va passer la ligne d'arrivée et il va. C'est du vert. Bastoun qui tape sur la table. 3 dixièmes d'avance pour Steven Amier dans cette première manche. Et donc, le Français prend la tête provisoirement de la première manche de ce slalom ici à Val d'Isère et le grand sourire de Bastoun.
C'est pas vivable, les gars. Là, c'est une belle expérience pour moi, pour nous. C'est ouais. Vrai que j'ai pas eu souvent l'occasion de le commenter en direct, surtout quand il fait parmi des favoris. Excusez-moi pour des fois l'enthousiasme que je peux y mettre, mais voilà, il l'annonce, on le sait, il a plus à rougir quand il annonce son statut. Aujourd'hui, il est capable de skier vite, très vite, peut-être même encore plus vite. J'avais un peu peur qu'il soit seul avec Clément. C'est vrai que ça laisse un peu des traces quand tu es en équipe. T'as un copain qui se blesse, ils s'entendent bien, ils jouent au golf ensemble, donc des fois c'est pas facile à gérer. Voilà, en tout cas ça va libérer l'équipe. Il y en a derrière qui sont là, qui skient très bien aussi, et j'espère qu'ils vont rentrer parce que ça soulagera aussi Steven de toute cette pression.
Et toi Bastoun, ça va te libérer là? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les quelques heures qui te séparent de la deuxième manche? Est-ce que tu vas monter et descendre jusqu'à en haut de la face de Bellewaerde à pied avec des cailloux dans le sac pour essayer de passer le temps?
J'hésite de rester caché dans la cabine pour pas aller voir tout le monde me dire merci, c'est bien. Et puis on verra. Non, mais voilà, c'est le slalom. Il reste 99% à faire. En tout cas, c'est beau de le faire devant ce public. Comme l'a dit Léna, on vient d'un petit village de Pralognan où il y a 150 habitants. Le club de Courchevel est derrière, forcément. Mais tu fais ça en France aujourd'hui. C'est bien, c'est top, et puis voilà, il n'y a plus qu'à continuer.
Ah, c'est génial. On est très heureux pour toi, en tout cas, Bastoun. Ouais, oui, vraiment très heureux pour toi, pour le fiston. Et ça va être un grand moment à partir de 13h. Hein. Il y aura la deuxième manche.
Si je vais avec vous, les gars.
On l'espère. tu feras comme tu peux, en tout cas. Nous, on sera là sur RMC pour cette manche de Steven Amier.
Regarde la course, tu fermes les yeux du début à la fin.
Il est leader pour l'instant.
Léna me dit, tu stresses? Puis au bout d'un moment, au 7, je commençais à danser des jambes. Elle me dit, mais là, tu stresses, non?
Bon, à tout à l'heure, en tout cas, évidemment, on viendra confirmer cette première manche avec toi, Léna, avec Bastoun. Et puis cette deuxième manche, donc, pour l'instant, notre Français est leader, lui qui n'est jamais monté sur un podium. Revenons à nos moutons, comme on dit, à Tadej Pogacar, les trois grands tours. Pogacar doit-il tenter ce pari fou? C'est un 2 contre 2 dans les grandes gueules du sport. Arnaud Souk est donc avec nous. En tout cas, une chose est sûre, ces trois grands tours, ce triplé historique, ce ne sera pas pour 2025.
Ça ne sera pas pour 2025. Alors, je vais vous donner le programme qui, finalement, est un programme assez, à la fois chargé et assez simple. Hein. Ça va commencer par le Tour des Émirats Arabes unis au mois de février, puisque c'est l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar. Donc, on va dire que c'est un petit peu l'un des tours nationaux de Tadej Pogacar avec le Tour de Slovénie. On peut même y ajouter le Tour de France. Ensuite, ça va être une grosse saison de classique pour Tadej Pogacar qui va faire l'Estrade Bianche, qui va faire Milan-San Remo, qui va se relancer sur les Flandriennes. Donc, il va aller à la fois sur le Grand Prix E3. 3 sur Gant-Wevelgem. Donc ça, c'est quand même une semi-classique, enfin un semi-monument qu'il aimerait gagner et qui va pas être évident à gagner pour lui, mais il en est capable. Il va ensuite aller sur le Tour des Flandres. Ça, il l'a déjà gagné il y a 2 ans. Il revient. Ensuite, il va faire une nouvelle fois sa campagne d'Ardennaise avec Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Et puis c'est la suite qui est un petit peu plus incertaine. Il fera le Tour de France, c'est certain, mais est-ce qu'il y aura le Tour d'Italie avant ou le Tour d'Espagne après? Ça va dépendre du parcours du Tour d'Espagne qui va être révélé dans quelques jours notamment. C'est pas tellement par rapport à lui, si vous voulez, que son équipe hésite, c'est plutôt par rapport à ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'on peut faire à ses coéquipiers? Qu'est-ce qu'on peut faire à d'autres leaders éventuellement pour le mettre ou sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne? Bref, il y a encore de l'incertitude par rapport à ça. Il ne fera pas les 3 grands tours, ça c'est sûr. S'il fait le Tour d'Espagne, on est sûr de le voir sur les routes françaises dès le début du mois de juin avec le Critérium du Dauphiné. S'il fait le Tour d'Italie, on ne le verra pas sur le Critérium du Dauphiné.
Et on le verra évidemment sur le Tour de France.
Ça,
merci beaucoup Arnaud Souk pour ces précisions. Avant de te libérer, juste quand même un petit message de félicitations pour le micro d'or hier. Merci. Pour ton commentaire sur le BMX lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, bravo, un micro d'or sur RMC, c'est important de le préciser. Donc merci beaucoup.
T'as mon cher Arnaud. Faire la fête là-bas alors que...
J'ai un travail, Christophe.
parce que tu sais que tous les vainqueurs depuis 20 ans sont accueillis.
J'étais invité également, mais
tu feras la fête plus tard. Voilà, le principal c'est d'avoir une récompense. Bravo mon cher.
C'est ça les grandes stars. C'est un peu comme les stars américaines ne vont pas recevoir leur trophée sur place. Quoi. Ils envoient leur producteur ou ils envoient. Voilà.
Tu connais mon ego surdimensionné.
Alors les 3 grands tours, Pogacar doit-il tenter le pari fou? C'est notre débat dans les grandes gueules du sport. Eh bien sachez qu'il n'y a pas de débat. Pour les auditeurs, c'est 72% oui, 28% non, Christophe Cessieux. Jérôme Pinault, vous êtes à la ramasse. Vous n'êtes pas dans le...
Mais ils sont vraiment spécialistes...
Dans le sens du courant, il y a un problème. Christophe Cessieux, pourquoi non?
Alors, je pense que ce serait pas une très bonne idée. Il y a 2 façons de devenir peut-être le plus grand coureur de l'histoire. La première, c'est de battre Eddy Merckx en palmarès général, ça il n'y arrivera pas. De battre Eddy Merckx et les autres en nombre de victoires dans le Tour de France, parce que c'est ça qui pour l'instant a toujours fait la grandeur des mecs. Il y a le groupe des 5, c'est-à-dire Merckx, Hinault, Indurain, Anquetil, et il m'en manque un cinquième, c'est le groupe des 4 en fait, les 4 qui ont remporté 5 fois le Tour de France.
Indurain, il y avait un autre mais ils l'ont enlevé.
Et il y en avait un autre qui avait atteint 7, c'était Lance Armstrong, mais pour l'instant tout lui a été retiré. Donc pour devenir plus grand que cela, il lui faudrait remporter un 6e Tour de France. Il en est à 3, il sera peut-être à 4 en 2025 et donc peut-être pourquoi pas en 2027. Donc ça semble la suite la plus logique, parce qu'il le dit encore cette année, ma priorité restera le Tour de France, c'est l'épreuve la plus importante de l'année, c'est celle que j'ai envie de remporter. Après, il peut se laisser tenter par un triplé qui n'a jamais été réalisé dans toute l'histoire du vélo sur une seule saison. Il faut savoir qu'un Merckx a remporté 4 grands tours d'affilée, mais c'est pas sur la même saison.
C'est ce que fera Pogacar a priori.
Sur 2 saisons. D'accord.
Tour, Vuelta et Giro 2026.
Tour, Vuelta et Giro. Ouais, il pourrait faire ça. Parce que le Giro, Tour, Vuelta dans la même année, celui-là n'a jamais été fait.
Et ok, mais pourquoi tu dis non alors?
Alors pourquoi je dis non? Parce que
je bosse
dans le cyclisme depuis beaucoup d'années. Pogacar est quand même la cible des soupçons quotidiens de la part de tous ceux qui ne connaissent rien au vélo et même de ceux qui connaissent quelque chose au vélo. Donc imaginez s'il venait à remporter les 3 tours dans la même année, ce qu'il deviendrait. Il deviendrait parce que je suis sûr que tu serais le premier à dire ouais mais c'est pas normal.
Mais non, je serais pas le premier à dire justement. Je crois que c'est votre problème dans le vélo. C'est justement moi, c'est ça qui me pose problème.
Mais moi je te dis pas qu'il faut pas gagner les 3 grands tours.
Non, moi je suis hyper choqué. Quand on aime le vélo, comment on peut dire ça? Moi, pour moi, il est à l'eau claire. Je me trompe peut-être, et si je me trompe, je prendrai une claque dans la tête. Mais s'il est à l'eau claire, c'est un coureur fantastique, et c'est un coureur qui a cet ADN pour aller tout gagner et être le premier. Oui, ça s'est jamais fait. J'ai regardé moi aussi. Personne n'a réussi à faire les 3 grands tours de suite. Moi, tu sais comment je le vois? Je vois cette année, en 2025, il va faire Tour de France, Vuelta, parce que la Vuelta, il l'a pas gagné, et il a envie d'être celui qui a fait parmi quelques-uns à avoir gagné un tour, un des grands tours à chaque fois, d'accord? Un des 3 grands tours. Maintenant, l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qu'il aura à faire d'autre? C'est quelqu'un qui, dans son ADN, c'est un champion.
Il lui faudra gagner Paris-Roubaix aussi. C'est pas encore.
Mais c'est cette année aussi. Cette année,
pas Paris-Roubaix cette année.
Il va pas tenter. Il y a beaucoup de classiques qui va tenter quand même cette année.
Il va tenter Milan-San Remo.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un de ces coureurs, un de ces sportifs qui nous font rêver, qui ont un ADN qui est différent du nôtre. C'est des monstres. Lui, il veut être, comme on dit, le GOAT. Le GOAT, si tu gagnes ça, tu deviens le GOAT. Parce que personne ne l'a jamais fait. Donc pourquoi il ne serait pas capable de le faire? Il a été fantastique. Il a fait une année 2024 incroyable. Je suis persuadé qu'il fera une année 2025 incroyable. Il a 26 ans. Il est dans le moment de sa carrière où il peut le faire.
Il ne faut pas qu'il tarde, c'est ça.
Il ne faut pas qu'il tarde non plus.
Okay. Clairement. Et s'il réussit, je t'interdis.
Mais jamais tu m'entendras dire ça. Pour moi, il est à l'eau claire. Ou sinon, je ne regarde plus le vélo. Sinon, on arrête de regarder du vélo. Si à chaque fois, il y a des suspicions, arrêtons le vélo.
Bah, c'est bien, Fred. Je vais monter un groupe de soutien quand on va commencer à parler de vélo et tu prendras notre défense. Que je pense que
je prends la défense de n'importe qui.
Dans les 74% des gens qui disent ça, ils sont 72 à dire dès qu'il les aura gagnés que c'est pas normal. Et ils le disent parce qu'ils pensent qu'il est pas normal. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, surtout, très importante, la préparation. La préparation pour un grand tour, pour Pogacar, après le Tour des Flandres et les Ardennaises, il va s'en aller, il va faire 4 à 5 semaines en altitude, pour revenir au Dauphiné et faire le tour. Ces 4-5 semaines-là sont incompressibles pour une première fois pour un bloc de travail. Ensuite, entre chaque grand tour, il va, entre le Giro et le Tour, l'année dernière, il a passé 2 semaines et demie à Livigno, il a fait l'impasse sur un certain nombre de courses pour revenir uniquement au Tour de France. Ça n'est pas possible entre le Tour et la Vuelta, puisqu'il y a à peine 15 jours, un peu plus de 2 semaines, pardon. Et il ne faut pas oublier.
Non, mais tu m'exposes des faits de ce qui s'est passé jusque-là. Là, on parle d'un coureur qui est au-dessus
Mais il est au-dessus parce qu'il passe par les passages obligatoires. C'est Pogacar, tout Pogacar qu'il est. S'il ne se prépare pas comme il faut, c'est-à-dire faire de la montagne et du monoxyde de carbone jusqu'à l'année dernière, jusqu'à la veille du départ, il ne peut pas gagner. Il doit remplir ces passages-là.
Jérôme, si je ne mets pas des challenges à un moment, ça lui sert à quoi?
Les challenges,
ça lui sert à rentrer dans l'histoire.
Il va de toute façon tout gagner dans sa carrière.
Dans un sens
ou dans un autre, je te mets au pari, sans rien dévoiler, qu'il va gagner, il va faire le tour cette année, la Vuelta, il ira au Giro pour gagner les 3 de suite, mais pas sur la même saison. Il va faire comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il fait partie d'un groupe.
Ça a déjà été fait. Il n'y a rien d'innovant.
Alors attends, garde des billes encore. Je vais écouter David Douillet sur ce sujet parce qu'il est, comme Fred et Fred est un peu tout seul là. David?
Je suis toujours un peu tout seul apparemment.
Bon, bah David n'est pas là visiblement. Jérôme,
attends, si, je suis là. J'avais coupé mon micro. Désolé.
Très bien, vas-y.
Désolé. Je disais que les temps de parole sont déséquilibrés dans ce débat, mais c'est une autre guerre. Vous oubliez une chose, c'est la concurrence, sa concurrence, parce qu'il n'est pas tout seul sur le vélo. On va pas parler de Vingegaard, forcément, Remco Evenepoel, Roglic, Wout van Aert. Est-ce que ces gens-là sont capables d'aller chercher sur un des trois?
Oui.
Réponse,
oui,
en particulier Vingegaard. Bon, on est d'accord. Je suis pas sûr que Evenepoel et Roglic et Wout van Aert, pas sûr qu'ils puissent aller. Le seul qui est capable d'aller le chercher, c'est Vingegaard. Donc son seul problème en réalité, c'est de savoir si Vingegaard va être suffisamment aiguisé, va être suffisamment pointu pour aller lui choper un des trois.
David, il y a un truc qui est hyper important, ce que tu dis là, la concurrence. Il faut aussi voir. Oui. Qui va faire ses grands tours? Parce que on revient toujours sur cette année-ci. Mais autour d'Italie, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville au départ. La concurrence par rapport à Pogacar, avec tout le respect que j'ai pour les autres coureurs, c'est zéro pour lui. Donc il gagne facile. La dernière semaine, il a déroulé. Il a commencé à préparer le Tour de France. Au Tour de France, Vingegaard, son principal adversaire, qui pour moi le seul coureur sur la planète actuellement qui peut le battre, malgré les déclarations de son jeune équipier Ayuso, c'est lui. Il s'est pété, il est revenu, il s'en soignait très vite. Très très vite, mais il était encore pas au niveau. Donc c'est deux grands tours où il s'est baladé. Tu remets cette année, Ayuso va faire c'est dans son équipe. Ayuso veut faire le Giro, Roglic veut faire le Giro, Vingegaard veut faire le Giro, Adam Yates, son autre équipier, veut faire le Giro. Pour le gagner ce Giro, il va falloir un peu se cracher un peu plus dans les pognes. Et la fatigue accumulée sur chacun des grands tours avec une vraie concurrence, elle va taper dans l'organisme, et je peux te dire que sur la troisième, parce qu'un mec comme Pogacar,
il va faire trois grands tours, c'était l'année où jamais de le faire, l'année dernière. En 2024, ok, David.
Non, mais moi je pense que si, la jauge, la seule information importante à savoir, vous les spécialistes, Jérôme et Christophe, c'est est-ce que Vingegaard va être au top cette année? S'il n'est pas, il peut le faire. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Ah ben si c'est la même concurrence que l'année dernière sur les trois grands tours, il peut le faire. Sauf que ça sera
pas la même chose. Si cette année,
et Vingegaard vont aller sur le Giro.
Et avec Roglic, une équipe renforcée, Vingegaard, il va pas tomber tous les ans.
Mais si cette année, le Giro a lieu évidemment avant le Tour de France, donc t'as déjà l'info. S'il voit pendant ce Giro que Vingegaard, il est encore un ton en dessous comme l'année dernière, moi je pense qu'il a toute la latitude et il aurait la pertinence d'aller chercher les deux autres tours qui lui manquent derrière. C'est la tactique que je mettrai en place.
Il n'ira pas au Giro.
Mais au-delà du fait de savoir s'il est physiquement, physio-biologiquement capable de le faire, la question c'est est-ce que ça fait du bien au cyclisme s'il le fait. Est-ce que c'est bien pour le cyclisme?
Moi, je pars du principe comme Fred.
Évidemment, c'est sûr que c'est bien.
Moi, je pars du principe et comme Fred que. Tant qu'il n'y a pas autre chose, moi je crois en cet athlète que c'est un phénomène. Évidemment que c'est un phénomène, s'il y en a bien un à tenter cela, comme les merdes ça a été, il faut qu'il le fasse. Mais en termes de concurrence, c'est pas la même époque. En termes de cyclisme, c'est plus le même cyclisme. Mais surtout, il a un dernier argument à gérer. Il fait partie d'une équipe qui l'aide à gagner. Et ses équipiers, il faut qu'ils mangent aussi. Et il a des jeunes avec lui qui ont déjà déclaré vouloir gagner.
Le deal d'amener quelqu'un qui gagne les trois grands tours à l'amener comme coéquipier, c'est pas un deal intéressant.
Pas dire coéquipier, il y a aussi des stars.
C'est là.
Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que je veux dire qu'on fait quelque chose que personne n'a jamais fait parce qu'on l'amène, parce qu'on fait le taf sur une année? Est-ce que c'est pas motivant aussi? Je pose une vraie question. J'ai pas la réponse.
Non, ce n'est pas parce que.
Mais ça peut être négociable aussi, ça.
Tu peux pas mettre tes 6 ou 7 meilleurs éléments à chaque fois au service d'un 8e pour que lui gagne. Ils prennent la lumière.
Pour qu'il fasse une chose d'historique.
Il est en train de te dire qu'ils ont des égos, les cyclistes.
Bah, évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Jérôme nous appelle au 32-16. Il veut participer au débat. Salut, Jérôme.
Salut, Jérôme.
Salut.
Bon, Jérôme, merci d'être avec nous. Pogacar doit-il tenter le pari fou?
Ah, moi, je trouve que, honnêtement, s'il le fait, c'est problématique pour le cyclisme. C'est problématique dans le sens où. Je pense qu'on va, forcément se poser des questions. Moi, je crois un peu.
Faut arrêter de se poser des questions à un moment. Soit on tolère le cyclisme, soit on ne tolère plus. On dit qu'on arrête le cyclisme et que c'est que des dopés. Voilà.
Je ne l'ai pas encore entendu parler. Au moins 15 secondes. Vas-y, Jérôme.
Fred, je l'entends ce que tu dis. Moi, je suis un amoureux de cyclisme. Mais vraiment, je suis un amoureux de ce sport. Je suis le premier à défendre le cyclisme sur toutes ces affaires qui ont poussé. Mais elles ont existé, ces affaires. Tu vois ce que je veux
bien
dire?
Bien sûr qu'elles ont existé. Donc, je ne peux pas dire le contraire.
Donc, à un moment donné, je pense que dans le cyclisme actuel, avec le niveau global des mecs, ils sont hyper préparés, ils contrôlent la nutrition, la diète, ça calcule les watts, ça compte ses coups de pédale, c'est hyper aseptisé, les équipes mènent le train, on te lâche à tant de kilomètres pour que tu fasses l'effort nécessaire pour mettre 2-3 minutes à tout le monde. C'est hyper bien réglé. Et même s'il a la meilleure équipe, comme disait Jérôme, il a de très très bons coureurs dans son équipe, mais il ne pourra pas emmener toujours tous les meilleurs pour l'emmener. Donc, il va falloir jouer avec tout ça. Mais moi, je trouve que c'est problématique. Si Pogacar arrive à faire ce pari fou, moi, je trouve que c'est problématique. Je pense qu'automatiquement, on va se poser quelques questions. C'est clair, net et précis, même si aujourd'hui, à part Vingegaard, il n'a peut-être pas beaucoup de concurrence, je l'entends. Moi, je pense que, à un mois d'écart sur chaque grand tour...
Il n'y a pas un mois entre la Vuelta et le Tour de France et la Vuelta.
Oui, il y a moins. Y a donc la suspicion serait de retour, c'est ce que veut nous dire
Jérôme.
Non,
mais alors si et moi vraiment juste pour conclure, évidemment, si tous les gens pensent que si Pogacar fait cela, c'est parce qu'il est dopé, alors il y a des grands dopés d'antan qui auraient déjà tenté cela et qui auraient gagné facilement, je pense notamment à l'américain. Donc les produits ne font pas tout, il faut pas croire que tout cela n'est dû qu'à la médecine.
Ok, voilà pour notre débat. En tout cas, vous avez été largement derrière, cher Christophe et cher Jérôme, parce que le monde, les auditeurs veulent voir ce défi fou de Pogacar, à savoir gagner les trois grands tours. Mais ce ne sera pas pour 2025. Merci Jérôme d'avoir composé le 32-16. Dans quelques instants, on vous parle du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui a encore fait une sortie remarquée hier en conférence de presse. Et surtout, restez bien avec nous, parce que dans quelques instants, j'ai une information très importante à vous donner sur le PSG. Il y a un joueur qui est écarté. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Fred Weiss, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Vous avez proposé 4 débats, mais mes GG, pour l'instant, c'est David Douillet qui gagne. Vous pouvez encore le battre.
À la politique, ça intéresse
David gens. Douillet, Alpes 2030, sport politique, c'est lui qui gagne.
Il a été élu, hein. On sait.
Ça tombe très bien. J'adore parler de politique et de sport.
Bon exemple.
C'est un très bon débat. Il nous l'a dit. dit, il nous l'a teasé tout à l'heure.
Est-ce que tu peux nous révéler le nom de celui qui sera président du COJO?
Ce sera tout à l'heure, ne t'inquiète pas.
La présidente.
Il l'a dit.
15 minutes, ça suffira.
Il l'a dit, ce sera tout à l'heure si, évidemment, il gagne. Vous pouvez encore voter, c'est dans 10 minutes. Alors, on va parler de Luis Enrique, mais tout d'abord, cette information à vous donner. Randal Kolo Muani n'est pas dans le groupe pour affronter Lyon ce soir, Paris Saint-Germain-Lyon, pour clore cette 15e journée de Ligue 1. Information RMC, Kolo Muani est écarté par Luis Enrique. C'est donc une décision de l'entraîneur parisien. On va pouvoir en parler dans un second temps, mais évidemment, ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'il a dit hier, Luis Enrique. Parce que vous le savez, cette semaine, le PSG s'est donné un peu d'air en Ligue des Champions, avec cette victoire 3-0 à Salzbourg. Paris reste toujours en apnée à deux journées de la fin de la Coupe d'Europe. En Ligue 1, les Parisiens donc qui affrontent ce soir Lyon au Parc des Princes. Et là aussi, pour les hommes de Luis Enrique, il va falloir repartir de l'avant après deux matchs nuls de suite. Mais pour l'entraîneur parisien, comme d'habitude, tout va bien. Il a même osé une nouvelle cascade hier en conférence de presse. Attention à ne jamais réaliser chez soi. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Si uno hace siempre las mismas cosas, ¿qué hace el rival? Se adapta.
Si on fait toujours les mêmes choses, l'adversaire s'adapte. Il faut changer pour surprendre l'adversaire. Cette saison, statistiquement, c'est ma meilleure saison comme entraîneur, peu importe les critiques et les mensonges. En termes d'occasions créées et d'occasions concédées, c'est ma meilleure. Beaucoup de journalistes disaient qu'on n'avait pas le meilleur effectif de France, mais ça se met en place et je suis très content car on est dans le processus de résoudre les problèmes. Je suis très content car nous ne dépendons d'aucun joueur, mais de l'équipe. Le niveau de l'entraînement monte et ça génère des choses positives. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je le redis, c'est la meilleure saison de ma carrière.
Mejorando. La mejor temporada de mi carrera.
Ok, en espagnol dans le texte, on l'a très bien compris. Est-ce qu'il est provoque ou sincère, Luis Enrique? Christophe Cessieux?
Il se fout de notre
Ok. David Douillet?
Il provoque à mort.
Provoque à mort. Fred Weiss?
Il est s'invoque.
Il est s'invoque, très bien. C'est donc un morphing entre les deux mots.
Exactement.
Jérôme Pinault?
Il est sincère.
Ok, bah franchement, tu commences, tu gardes la main, Jérôme. Pourquoi sincère?
Mais il est sincère, il est en phase avec lui-même.
Ah oui.
Il est sur les stats, il est sur son truc, c'est lui le génie. Donc évidemment qu'il est sincère. Moi, je pense qu'il y croit profondément à ce qu'il dit. Et c'est le plus important.
Tu crois qu'il a oublié l'année 2015, par exemple, avec le Barça, tout ça?
Mais il est dans son délire. C'est-à-dire qu'il attend tellement.
Ah, mais j'adore ce délire, mais j'aimerais avoir
le même. Il attend tellement à se faire démonter. C'est ce qu'on fait tous à longueur de journée, par tous les médias, que. Il continue, mais c'est même pas la provocation. Du coup, ça devient de la sincérité. Il pense ça, il est dans son truc, il est dans sa com. Et il fait parler les stats. Tu l'as vu, il ne parle que de stats. Là, il ne parle pas d'occasion transformée.
D'expected goal. Il parle
exactement, d'expected goal. Et après, il dit aussi quelque chose qui est formidable et qui est totalement en phase avec son idée conçue du football à lui. Le Enrique football, c'est il n'y a plus de stars dans mon équipe, j'ai enfin une équipe. La star, c'est moi. On a compris quand même ça depuis un moment. Donc, quand la star, c'est lui, et qu'il a un boulard de ouf, et qu'il a un ego surdimensionné, comme beaucoup de footballeurs, mais lui, je pense que c'est encore plus, bah évidemment qu'il est sincère.
Ok, il est sincère. Provoque à mort, David Douillet.
Bah oui, parce qu'il est, il est toujours dans le show médiatique. Je trouve que c'est une stratégie sympathique, parce que, ce qui est dit, redit, les commentaires qui sont faits sur le PSG, ça parle dans tous les sens. Or lui, il adopte un truc d'ailleurs que les politiques adorent, c'est-à-dire qu'il mène le rythme. Il lance un truc comme ça, ça fait parler, ça nous fait pédaler, et il mène le rythme et son propre rythme, et tout le monde pédale derrière et court derrière. C'est une tactique connue. Je pense
que tu l'as utilisé, David, toi, cette tactique.
Non, je l'ai regardé, j'avais pas besoin de l'utiliser, mais c'est dans tous les domaines, c'est connu. Mmh. Tu lances un lièvre pour que tout le monde s'échappe, ça t'évite de parler des choses qui vont pas ou moins bien, parce que voilà, le leurre est lancé.
OK, donc on
mais
tombe
dans très habile, il est très intelligent,
voilà. OK, on tombe dans le piège. C'est ce que tu veux nous dire. Il se moque de nous, ouais. Christophe.
Bah alors, je pense qu'il est aussi dans un phénomène d'auto-persuasion à force de dire je suis le plus beau, je suis le plus beau.
Enrique
je vais finir par y croire et je vais finir par faire croire aux gens que c'est moi le plus beau. fort, c'est moi le plus intelligent.
Dommage
et
que
je
vous
pense que depuis qu'il est né, il fait ça. Je suis plus beau, je suis plus fort, je suis plus intelligent.
Dommage que nous ne soyons pas en télé.
Tu es le plus beau, tu es le plus fort.
On dirait Philippe Bouvard sur ta chaise.
Mais il est incroyable. Mais je pense aussi qu'il est atteint par Alzheimer. Je pense aussi qu'il est vraiment atteint par Alzheimer parce que, comme le disait Fred, il a réalisé une saison qui est sans doute entrée dans les annales alors qu'il était jeune entraîneur du Barça. Il arrive au Barça en 2014. Bon, dans son équipe, il y a Iniesta, il y a Messi, il y a Luis Suarez.
Mais il le dit, dans l'interview hier. Il dit qu'il n'y a pas de star dans son équipe.
C'est une équipe hallucinante qui marche sur l'Espagne, qui marche sur l'Europe. Championne d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, vainqueur de la Ligue des Champions, 60 matchs disputés, 50 matchs gagnés. C'est hallucinant. Et là, on s'est dit qu'on avait sans doute le plus grand entraîneur espagnol de tous les temps qui était face à nous. Bon, il a réussi d'autres saisons incroyables, mais jamais il a reproduit cette saison-là. Mais comment il peut dire qu'avec cette équipe de tocard qu'il a cette année au PSG, cette équipe joue mieux et le fait mieux ressortir comme entraîneur qu'en 2015? Non mais arrête, mais il nous prend pour des idiots.
Moi je pense qu'il
se prend, il y croit,
Moi c'est pour ça que j'ai les deux. C'est pour ça que moi j'ai un peu les deux, parce que je suis un peu d'accord avec les deux. Parce qu'effectivement, je pense que il faudrait être complètement fou pour se dire mon année 2015 c'était une année qui était ratée par rapport à celle que je suis en train de vivre maintenant. Parce que effectivement, ce qu'il a gagné, comment ça s'est passé, c'était ses débuts, tout se passait très très bien pour lui. Donc forcément, c'était une année qui était géniale. Mais je me dis, je rejoins Jérôme. Ce mec-là a un ego tellement surdimensionné que se dire qu'il est dans un nouveau projet où il est le centre et le cœur de ce projet, sans star, il dirige tout.
Il
a un vrai projet à Paris, c'est-à-dire qu'il lui laisse le temps. Franchement, les médias français sont plutôt cool, même si tout le monde dit qu'on l'attaque, sont plutôt cool. Franchement, il vit une année plutôt peinard. Il est tranquille, il peut mettre ses choses en place tranquillement. Personne lui tombe dessus. Ça se passe bien. Ça gagne pas, c'est pas grave. J'ai trouvé une explication. En plus, c'est contre français, ils comprennent au foot. Donc ça tombe bien. Je dois revoir ma soupe. C'est génial.
Un petit mot, les copains, sur l'information que je dévoilais il y a quelques instants sur l'absence de Randal Kolo Muani.
Elle est où l'info? Et qu'il l'emmène pas ou qu'il l'emmène puis qu'il laisse le banc.
Il reste sur le banc. L'emmener. Oui, mais il est écarté là. Ça veut dire que Randal Kolo Muani,
il a décidé de lui faire la peau. Et c'est un joueur qui lui plaît pas, comme il a fait avec tant d'autres avant. Ça lui plaît pas. C'est pas dans son cadre à lui. Donc ça
parce
va
que
pas
le chef du projet, c'est lui. Il doit avoir un cadre. C'est lui qui décide de tout. Et c'est comme ça qu'il se sent le mieux.
En plus, il a plein de numéros 9 dans son effectif.
Ouais, il a battu Salzbourg. Donc là, il est tranquille maintenant. Il est sur le toit de l'Europe. Il est de retour sur le toit de l'Europe.
Ok. Tu voulais dire autre chose?
Non, mais je disais ça parce que je pense qu'il est aussi beaucoup dans la moquerie. Alors on parle de provoque. Sur un sujet certain, il l'est. C'est surtout ses datas. Quand on a regardé le reportage sur lui, on le comprend. Il est quand même dans l'humain et dans la stratégie. Il va chercher des choses qui touchent l'humain et on nous saoule avec ces datas-là. Et moi, il me fait penser dans cette réflexion-là. J'ai fait mes meilleures saisons puisque j'ai des bons datas. C'est un coureur qui dira, il est largué, il prend 10 minutes, il dit mais je comprends pas. Moi, je suis dans mes watts. C'est le bon truc pour dire arrêtez de nous saouler.
Mais on parlait des arbitres tout à l'heure, c'est la meilleure excuse possible, les datas. Ça, en fait, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi.
Je pense qu'ils s'en moquent.
Et comme c'est un garçon intelligent et qu'ils pensent qu'on est tous des idiots, bah, ça passe.
Okay. Quand on voit son bureau au nouveau centre d'entraînement,
voilà
c'est
ce
la
que
NASA.
L'on pouvait vous dire sur Luis Enrique. Je vous redonne cette information. RMC Kolo Muani, Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'équipe de France du Paris Saint-Germain.
Dans un club où il va s'éclater.
Écarté pour le match ce soir face à Lyon par Luis Enrique. La rencontre, c'est à 20h45. La grande soirée autour de Jean-Louis Tour, c'est à partir de 20h. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque et nous allons très certainement parler d'Alpes 2030. En tout cas, c'est le vœu de David Douillet.
Comment
et
ça,
les
David
auditeurs, m'a battu ? Les auditeurs le suivent. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, David Douillet, Jérôme Pinault. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. À partir de 11h, surtout, restez bien avec nous. Ce soir sur RMC, c'est l'exclusivité. Neymar est sur RMC dans Bartoli Time avec Marion Bartoli et Benoît Boutron. Et il veut faire la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Une superstar peut-elle devenir un boulet pour sa sélection? Ce sera notre débat. Tout de suite, direction Val d'Isère pour vous confirmer une information. Léna Marjac, Steven Amier est toujours en tête de cette première manche du slalom de Val d'Isère.
toujours en tête et ça ne devrait pas bouger même s'il reste des dossards. Mais là, les hommes qui vont partir ne vont pas les chambouler cette tête de la tête de la première manche. Donc Steven Amier est donc le leader de ce slalom et on va le retrouver tout à l'heure à partir de 13h. C'est lui qui fermera donc le portillon de départ parce que je vous rappelle, lors d'une seconde manche, eh bien on part dans l'ordre inverse donc de la du résultat de la première. Donc Steven Amier, eh bien tout à l'heure ira jouer eh bien le podium et surtout la gagne pour potentiellement eh bien aller remporter sa première étape de Coupe du Monde dans sa carrière. Donc ce sera à suivre à partir de 13h tout à l'heure avec son papa évidemment Bastoun qui sera à mes côtés.
RMC, les GG contre-attaque.
Mes GG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous nous avez proposé un débat. C'est l'heure du résultat. Quatrième place. Oh, c'est pas très surprenant. Il nous propose du basket. Le bilan de Shuta. Alors là, franchement, une copie double. 10% pour toi, Fred.
Pour toi, tu m'as blessé.
T'as pas fait rêver
la ouais, mais j'ai voulu la faire rêver. Vous avez des sujets qui étaient peut-être plus intéressants.
Tu nous fais rêver. Oui. Mais le bilan de Shuta,
je soupçonne de choisir des sujets moisis pour être sûr de ne pas avoir à bosser, moi.
Ouais. En même temps, c'est vrai que si tu prends du basket, c'est plus facile. Troisième place pour Lefebvre qui tire sa révérence. La légende, Patrick Lefebvre, le directeur sportif. 21% pour toi. Troisième place, Jérôme Pinot.
Il paye ce qu'il a fait à la Philippe, Lefebvre, là.
Ouais, il a beaucoup de détracteurs. C'est dommage parce que c'est quand même.
Oui, mais on va pas en parler parce que tu as perdu.
On va parler politique.
Est-ce que l'UBB peut devenir le rival de Toulouse? 26% deuxième place.
Qui ont voté pour eux.
Et qui pour Alpes 2030? C'est la victoire de David Douillet. Vas-y,
et t'as intérêt à balancer de l'info, David. Hein, parce que,
explique-nous ton sujet, parce que c'est vrai qu'on ne connaît toujours pas le président du COJO, mon cher David.
Exactement, et c'est inquiétant pour ça. On devait avoir, il y a quelques jours, l'arrivée des anneaux à la Plagne. Bon, la neige est là, mais les anneaux sont pas là. Voilà, pourquoi? Parce que le CIO commence à prendre des petites mesures de rétorsion et marque le coup en disant que les choses n'avancent pas, parce que aujourd'hui, officiellement, ce que dit le CIO, c'est que la situation institutionnelle n'est pas stabilisée. Sous-entendu, il n'y a pas de patron, on ne sait pas qui fait quoi. Donc on a eu quand même l'obtention de ces Jeux le 24 juillet avec deux régions, l'Aura, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA dans le sud, avec à la tête de ces deux régions Monsieur Wauquiez, Monsieur Muselier. Et là, malgré l'exemple qu'on a eu sur Paris avec avec Tony Estanguet qui a mené de main de maître toute cette épopée, on retrouve nos anciens démons, c'est-à-dire que on sent que un ou plusieurs athlètes pourraient faire de l'ombre, pourraient faire de l'ombre à certains politiques. Alors pour quelle raison, je vais peut-être le dire à la fin, mais en tout cas, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on pressent, et c'est pas digne. On a l'obtention des Jeux, et il faut avancer, voilà. Et aujourd'hui, on voit des schrappes qui sont déjà mises sous les pieds de certains, notamment de Martin, qui, je le rappelle, est quand même 6 fois champion olympique, qui a obtenu 6 globes, 11 titres mondiaux, et qui est membre du CIO. Et en tout cas, la personne qui est attendue par le CIO pour diriger cette affaire-là. Et ça patouille. Voilà, on lui reproche notamment, un petit chausse-trappe, d'avoir des partenaires qui pourraient rentrer en conflit d'intérêts avec, évidemment, les futurs partenaires de ces mêmes Jeux Olympiques. Donc on sent pointer, voilà, des planches qui glissent un petit peu. Voilà, bon, lui, il s'est patiné. J'espère qu'il s'en sortira parce qu'il le mérite. Il le mérite aussi avec, dans sa roue et dans sa glisse, un garçon comme Vincent G, qui, lui, à la région Aura, avant qu'on ait l'obtention, a eu la direction du projet. C'est-à-dire qu'il a monté le projet. Vincent, on le connaît, il est plein de compétences. Ces deux-là sont très intelligents. Bon, ça me semble tout à fait honnête et de bon sens que il soit mis en avant, avec un Martin qui, lui, a cette reconnaissance au-dessus de Vincent, il faut dire les choses comme elles sont, à l'échelle internationale. Et Dieu sait si on a besoin d'un patron qui est reconnu à l'échelle internationale. Mais là,
Ils sont sur deux projets différents. Ils sont pas tous les deux pour l'instant alliés. Hein. J'ai Fourcade, David. Hein.
Oui, mais c'est ce que moi je pense. Il faut. On a besoin des deux.
Ouais.
En tête de proue Martin et Vincent et Vincent derrière. Genre on sera pas trop deux, pas trop trois. D'autant que
Marie Martino aussi.
il y a eu un consensus où on attend, le CIO attend un schéma d'association dirigé par un président, mais aussi un comité exécutif où il y aura 5 personnes, mais avec une majorité de personnages issus du mouvement sportif. Voilà ce qui est attendu. Et puis je rajoute une petite pincée de sel qui pique très fort, c'est que malheureusement, et là aussi c'est encore une de nos caractéristiques à la française, de la politique française, la garantie des 500 millions d'euros qui était inscrite dans le projet de loi de finances, bah, vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, à l'article 54, tout ça, on reparle au conditionnel. Donc imaginez bien, le CEO qui voit tout ça de loin, enfin en réalité de très près, c'est pas normal, c'est pas digne. La France doit avancer et ne doit pas surtout servir ou en tout cas anticiper les intérêts politiques de certains, les intérêts politiques personnels de certains qui envisagent peut-être d'autres options après 2030. Donc ça, c'est inadmissible. On ne prend pas en otage les jeux et le sport pour des basses raisons personnelles. Voilà, c'est mon avis. Il est temps de se mettre au travail.
J'ajoute que le CIO a envoyé une lettre au gouvernement pour le presser de constituer un comité d'organisation. Exactement. Pour Acte 2030 et que David Lapartient espère un dénouement pour le 24 décembre ou avant le 24
Il
décembre.
Il se dit également que Michel Barnier... ancien Premier ministre reprendrait le sens des affaires dans cette histoire de Cojo, associé à un sportif, alors avec Martin Fourcade ou avec Vincent G. Je vois beaucoup d'hommes quand même dans toute cette histoire, très peu de femmes. Hein. C'est une nouvelle fois, ça se règle entre braguettes cette histoire, David. Hein.
Non, mais à un moment donné... Je veux dire, quand on a un garçon comme Martin Foucault, enfin, je sais pas, faut juste comprendre qui il est. C'est juste, on parlait de Pogacar qui essaye de faire des triplés monstrueux. Enfin, c'est une légende, Martin. Il est reconnu en tant que tel. Il est membre du CIO. Enfin, faut quand même pas exagérer. C'est notre Kili d'aujourd'hui.
Mais tout le monde veut sa part du gâteau. Tu sais ce que c'est, David, malheureusement.
Mais c'est pour ça que j'en parle ce matin. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut avancer. Faut penser à la France et à notre pays. Voilà. Et arrêter les petites chicailleries
de bas étage pour empêcher
d'avancer les choses.
Tu sais très bien, quand tu parles politique et que tu parles solidarité, c'est deux mondes qui s'ignorent complètement, David. Là, tu sais très bien.
Mais tu as raison. Mais tu te rends compte de ce que tu dis. Ça devrait être tellement associé.
Mais oui, mais
la politique,
ça devrait être de la solidarité, et encore moins en France, et depuis bien longtemps. Et ça l'est de moins en moins. Si tu le sens aujourd'hui avec cette histoire-là, comme dans tout, c'est-à-dire que chacun tire la couverture à soi. Et là, elle est belle l'histoire. C'est pour passer devant, pour des histoires post 2030 qui vont bénéficier à certains et certains camps. On parle de l'ego des sportifs. Et surtout, attention, sur cette planète et dans notre pays, les gens qui ont le plus d'ego, ce sont les politiques.
Et les politiques certainement ont vu le bien que ça a pu faire à Tony Estanguet. Et peut-être que
ils ont tous essayé de croquer déjà à Paris et ça a été très bien fait, donc ils n'ont pas pu.
Tu as raison, Jérôme. Et dernier petit message. Dernier petit message, messieurs les politiques, justement, si vous voulez grandir, ne restez pas dans cette médiocrité.
Okay.
Donnez les choses à qui de droit. Voilà.
Il se murmure aussi que Madame Fourcade n'est pas complètement à bloc à l'idée que son mari devienne président du COJO.
Se lance dans cette bataille.
C'est les petites rumeurs qui remontent.
On a des informations, on connaît ça par cœur. Laisse tomber,
c'était une attaque gratuite, t'inquiète pas.
Tu viens de patron du COJO, David.
On reparlera d'Alpe 2030. Vous voyez bien que je vous fais des grands signes, les copains. Arrêtez de m'avancer,
j'ai vu quelqu'un, moi.
Sur RMC, vous le savez, jusqu'à Noël. Non, on arrête d'en parler. Sur RMC, jusqu'à Noël, on vous couvre de cadeaux. Vous le savez, à partir de maintenant, vous pouvez envoyer Noël au 732-16. Noël au 732-16. Il y aura un tirage au sort dans quelques instants et un grand gagnant sera avec nous dans une vingtaine de minutes pour découvrir son magnifique cadeau qu'il pourra mettre sous le sapin. Noël au 732-16, on vous attend nombreux. A tout de suite sur RMC, on va parler de l'exclusivité Neymar sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.